Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, pourquoi tout le monde veut à nouveau aller sur la Lune ? 50 ans après la fin du programme Apollo en 1972, les États-Unis tentent de reconquérir notre satellite avec l'aide de l'Europe pour, cette fois-ci, y installer des bases durables. La Russie tente, elle aussi, de renouer avec son glorieux passé d'exploration spatiale et de nouveaux acteurs entrent dans le jeu de la conquête lunaire, comme la Chine, l'Inde ou encore le Japon. Mais alors, qu'espère-t-on réellement trouver sur la Lune ? Quelle richesse inexplorée y sommeille ? Et pourra-t-on vraiment y installer un jour des bases habitables par des humains ? Pour répondre aux questions que soulève cette nouvelle épopée spatiale, je reçois Pierre Barthélémy, journaliste scientifique au Monde. Cet épisode a été produit en partenariat avec la Cité de l'Espace à Toulouse, qui met la Lune à l'honneur avec son nouveau simulateur de voyage. Notre reporter Garance Munoz s'y est rendu. La Lune, future colonie humaine, un épisode de Garance Munoz, réalisation Amandine Robillard.
Novembre 2025, je m'apprête à vivre un moment historique. Avec mes trois coéquipiers, nous allons sur la Lune. Le grand retour de l'humanité sur notre satellite, après 50 ans d'absence. Go for launch.
C'est bon, j'embarque, prête pour le décollage. Je m'assois dans ma capsule, je vérifie les écrans de contrôle, tout est OK. 5, 4, 3, 2, 1.
La fusée s'envole avec fracas. Nous quittons le sol terrestre. La vitesse augmente et atteint 5000 km/h. C'est plus rapide qu'une balle de fusil. Je vois le ciel s'obscurcir. Autour de nous, tout devient noir. C'est bon, je suis dans l'espace. Avec la vitesse, la pression augmente sur mon corps. Je sens que je deviens plus lourde, comme si j'étais écrasée par une masse invisible.
Équipage, ici salle de contrôle. Test de réflexe. Éteignez les boutons qui s'allument le plus vite possible.
Les gestes sont difficiles, j'ai du mal à lever le bras pour appuyer sur les boutons. Nous avons atteint 2G. Au maximum de l'accélération, je pèse deux fois mon propre poids. Après plus de 3 jours de voyage, nous arrivons. À travers le hublot, je vois la Lune, ses cratères, sa poussière, son inhospitalité qu'il va falloir dompter. L'alunissage va pouvoir commencer.
Équipage, paré à l'alunissage.
Nous y sommes, prêts à débuter la nouvelle grande aventure humaine dans l'espace.
Bonjour Pierre.
Bonjour Jean-Guillaume.
Alors Pierre, d'ici 2025, si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de retard, la scène fictive qu'on vient d'entendre pourrait réellement avoir lieu. Les Américains pourraient à nouveau poser le pied sur la Lune et d'autres pays aimeraient d'ailleurs rapidement suivre leurs traces. Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui toutes ces missions lunaires se multiplient ?
Alors, en préambule, je vais quand même dire qu'il est de moins en moins probable que les Américains remarchent sur la Lune en 2025, ni même en 2026, parce que le programme Artemis prend du retard, notamment au niveau de l'engin qui atterrira sur la Lune. Mais pour répondre à ta question, je dirais que depuis les dernières missions lunaires, qui datent de l'époque de la guerre froide, le marché de l'espace a beaucoup, beaucoup évolué. Tout d'abord, il s'est ouvert à de nombreux pays. Aujourd'hui, on a des fusées indiennes, des fusées japonaises, des chinoises, on a des astronautes européens, des astronautes chinois, etc. Et surtout, le marché de l'espace, qui était à l'époque d'Apollo le privilège des États, les États-Unis, l'Union soviétique, aujourd'hui, ce marché, il est dans une phase accélérée de privatisation, ce qui permet à presque n'importe qui d'envoyer quelque chose dans l'espace à partir du moment où il a l'argent pour le faire. Et puisqu'on parle d'argent, il faut ajouter que les coûts d'accès à l'espace sont considérablement réduits, alors notamment grâce à un acteur qui s'appelle SpaceX, la société d'Elon Musk, que SpaceX a dû réduire d'environ 50% le prix de ce qu'on appelle le kilo en orbite grâce à ses fusées Falcon 9 qui sont des lanceurs réutilisables. Alors qu'évidemment, avant, toutes les fusées ne servaient qu'une fois, elles étaient détruites après leur lancement.
Donc ça permet à n'importe qui de se lancer.
Ça permet à plein de pays de se lancer, même à leur petite échelle, hein, de lancer des objets dans l'espace. Et je prendrai juste l'exemple des Émirats Arabes Unis qui aujourd'hui, bah, ils ont un engin en orbite autour de Mars.
Donc c'est à la fois plus facile, moins cher d'aller dans l'espace, mais ça n'explique pas entièrement les raisons de ce nouvel élan pour l'exploration lunaire. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'y retourner ?
Alors évidemment, il y a plusieurs raisons. Alors la première est d'ordre symbolique et géostratégique, finalement un peu comme dans les années 60. Aller sur la Lune, y poser des humains, comme avant, c'est montrer qu'on en est capable déjà, qu'on est un pays technologiquement avancé, que son modèle de société a la puissance nécessaire pour réaliser ce genre d'exploit. C'est un instrument de puissance.
Comme dans la guerre froide, c'est une démonstration de force. Ouais.
Exactement. Alors, ça motivait évidemment les États-Unis et l'Union soviétique il y a 60 ans. Aujourd'hui, ça motive des pays comme la Chine ou l'Inde. Alors, je vais parler avant tout de la Chine, parce que la Chine a mis sur pied il y a plusieurs années un programme lunaire ambitieux qui consiste, grosso modo, à reproduire tout ce que les Américains et les Soviétiques ont fait dans les années 60 et 70. Alors, ils se sont mis en orbite, ils ont posé des rovers, ils ont fait un retour d'échantillon, et tout ça a marché du premier coup, donc c'est assez remarquable. Leur objectif à moyen terme, donc, c'est d'ici à la fin de la décennie, bah, c'est de réussir à poser des astronautes sur la Lune. Alors, les Indiens sont moins avancés, mais quand même, ils ont réussi à se poser sur la Lune cette année, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Hein, l'Europe ne l'a jamais fait. C'est un exploit dont s'est félicité le premier ministre indien, Narendra Modi.
Chers amis, la science et la technologie sont à la base de la prospérité de notre nation. Et ce jour restera à jamais gravé dans nos mémoires pour cette réalisation. Cette journée nous incitera tous à avancer vers un avenir radieux.
Donc ça, c'est pour l'aspect politique, géostratégique presque. Est-ce qu'il y a également des raisons scientifiques à vouloir aller sur la Lune ?
Alors oui, il y en a, parce qu'en fait, avec Apollo, on a passé très très peu de temps sur la Lune. C'était des missions très courtes, il y en a eu 6 de quelques jours à chaque fois. On a exploré que peu d'endroits en réalité. Les chercheurs estiment qu'on a pu analyser que 4% de la diversité géologique de la Lune, ce qui n'est pas beaucoup. Et en revanche, il y a énormément de terrains dont on n'a pas d'échantillons, donc il reste beaucoup de choses à découvrir sur ce plan. Et puis, il y a un dernier aspect qui motive les missions lunaires, c'est que la Lune, c'est un entraînement parfait pour aller sur Mars. Le voyage habité sur Mars, ça devrait être la grande aventure de la deuxième moitié du XXIe siècle. C'est Mars, c'est l'horizon de l'exploration par des astronautes du système solaire. Mais c'est très compliqué. Alors, pour le moment, on n'est pas technologiquement en mesure de se lancer dans cette aventure. C'est une aventure dangereuse, hein, pour les humains qui s'y lanceront, d'où la nécessité de se préparer méticuleusement et très longuement.
Mais alors, Mars, en termes de distance, ça n'a rien à voir avec la Lune. Alors, en quoi la Lune, c'est un bon entraînement pour l'exploration martienne ?
Alors, je vais prendre un exemple apparemment tout bête, hein, c'est la communication. Alors, si un jour on va sur Mars, alors la distance entre Terre et Mars évolue en fonction des orbites, mais si on va sur Mars, il pourra y avoir jusqu'à 20 minutes de délai de communication avec la Terre. Donc, entre le moment où tu poseras la question à un astronaute sur Mars et celui où tu auras la réponse, il pourra s'écouler 40 minutes. Alors, sur la Lune, qui est beaucoup plus proche, hein, elle est environ à 380 000 km en moyenne, ce décalage sera que de 2 ou 3 secondes. Ça a l'air de rien, mais déjà, il faut apprendre à gérer ce délai, parce que ça met dans la tête des gens qu'il faut apprendre aussi à gérer la distance entre la Terre et la Lune, et puis plus tard, entre la Terre et Mars. Donc la communication, c'est un premier point. Il y en a d'autres, évidemment. Si jamais il y a une urgence, les astronautes sur la Lune ne pourront pas, comme c'est le cas avec la Station spatiale internationale, se précipiter dans un vaisseau de secours et revenir sur Terre en quelques heures. Ah non, ça, c'est pas possible. Depuis la Lune, ça mettra plusieurs jours et les astronautes devront finalement apprendre à se débrouiller sur place, un peu comme dans le film « Seul sur Mars ». Il y a toute une liste de prérequis pour aller sur Mars. Donc, c'est un long apprentissage. Il vaut mieux le faire sur la Lune, qui est dans la banlieue de la Terre, plutôt que tout découvrir une fois qu'on arrivera sur Mars.
Ok Pierre, on a compris les raisons qui motivent les humains à vouloir retourner sur la Lune. Maintenant, on va se demander ce qu'ils y feraient exactement une fois sur place. Est-ce que la Lune peut être le terrain de potentielles découvertes scientifiques ? Tu nous disais que seulement 4% de la Lune a été explorée, alors que cachent les 96% restants ?
D'abord, il faut savoir qu'on s'est rendu uniquement sur les surfaces bien planes de la Lune. Ce sont des terrains où il y a eu des grandes coulées de lave. C'était des surfaces où il était facile de se poser, tout simplement. Ensuite, les missions Apollo visaient surtout les zones équatoriales et la face visible de la Lune. Ce qui fait que les humains ne sont jamais allés sur les zones montagneuses, sur la face cachée, qui est très différente de la face visible. Ils ne sont jamais allés non plus dans les régions polaires. Donc, sur le plan géologique, il y a beaucoup de choses à découvrir. Après, pour ce qui est de l'exploitation, puisque c'est aussi une question sous-jacente finalement, pour ce qui est de l'exploitation des minéraux, qui ne sont pas très différents de ce qu'on trouve facilement sur Terre, il n'y a pas un grand intérêt à les extraire de la Lune, ça coûterait extrêmement cher.
Donc si je te suis bien, il n'y a pas de scénario de science-fiction où on pourrait extraire un minerai de la Lune qui pourrait nous enrichir, par exemple?
Alors il y a quand même quelque chose qui fait fantasmer certaines personnes, c'est ce qu'on appelle l'hélium-3. Qui est produit par le Soleil et qui se dépose à la surface de la Lune parce qu'elle n'a pas d'atmosphère. C'est une ressource possible, dit-on, pour faire de la fusion nucléaire. Alors, il faut savoir qu'avec quelques dizaines ou centaines de tonnes, on produirait l'équivalent de la consommation d'électricité mondiale annuelle. Mais ça reste quand même de l'ordre de la science-fiction, car on est complètement incapable pour le moment de récolter le moindre gramme d'hélium-3.
Ni même de faire une fusion nucléaire civile contrôlée.
Voilà, exactement. On ne peut pas s'en servir non plus. Donc le but principal, c'est quand même pas d'exploiter les ressources minérales de la Lune, mais c'est vraiment d'apprendre à s'y installer.
Alors, si le but, c'est d'apprendre à s'installer sur la Lune, ça veut dire donc que les missions envisagées pour l'avenir, elles vont être beaucoup plus longues que celles qui ont déjà eu lieu par le passé.
Oui, c'est vraiment l'objectif à moyen terme. C'est mener des missions longues, à la différence d'Apollo, où c'était vraiment un petit tour et puis s'en vont. Là, on veut apprendre à vivre sur un autre astre que la Terre, à y rester de manière pérenne. Pour faire une comparaison un peu plus parlante, finalement, on veut suivre la même histoire que ce qui s'est passé lors de l'exploration de l'Antarctique et du pôle Sud. Au début, on y allait juste le temps de mener une exploration. On faisait des raids rapides et on rentrait très vite. Et puis, on a appris petit à petit à faire hiverner les scientifiques. On a construit des bases pérennes. Et il y en a d'ailleurs une au pôle Sud, qui est pourtant un des endroits les moins hospitaliers de la Terre.
À quoi elle pourrait ressembler cette forme permanente d'exploration ?
Alors, il y a deux possibilités. La première, qui est celle que veulent mettre en œuvre les Américains avec leurs partenaires européens, japonais, canadiens, c'est d'avoir une base en orbite autour de la Lune. C'est ce qu'on appelle le Lunar Gateway, le portail lunaire. Alors, l'idée, c'est que cette station soit une sorte de base pour les astronautes qui pourraient ensuite descendre de temps en temps pour se poser sur la Lune, pour y faire de l'exploration, des prélèvements, etc. Alors, la construction des différents éléments de cette station spatiale est déjà en cours, hein, et leur envoi dans l'espace se fera progressivement au cours des prochaines années. C'est une solution finalement assez facile parce que des stations spatiales, on sait faire. Voilà. La deuxième possibilité, ça serait de construire une base à la surface même de la Lune. C'est ce qu'aimeraient faire apparemment les Chinois et les Russes. Mais c'est un projet plus lourd et qui pose de nombreux problèmes techniques, ne serait-ce que celui des matériaux de construction.
Et alors, une fois qu'on se retrouverait sur place, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on pourrait survivre à la surface de ce satellite naturel ? On sait que la Lune est un milieu, par définition, hostile pour les humains.
Oui, donc la première question, c'est la protection physique des astronautes. Alors déjà, pour y aller, tout simplement, il faut fabriquer des vaisseaux sûrs parce qu'on n'acceptera plus de faire prendre aux humains les mêmes risques que lors des missions Apollo. Et ensuite, une fois qu'on sera sur la Lune, il faudra les protéger des dangers qui y résident. Il faut savoir que la Lune, c'est un endroit dangereux, car contrairement à la Terre, où le champ magnétique et l'atmosphère nous protègent des particules énergétiques qui arrivent de l'espace, on n'a pas du tout cette protection sur la Lune. Il n'y a pas d'atmosphère et il n'y a pas de champ magnétique. Pour la petite histoire, entre les deux dernières missions Apollo en 1972, il y a eu une éruption solaire assez importante qui a envoyé tout un flot de particules dans l'espace. Et si jamais il y avait eu une mission sur la Lune à ce moment-là, les astronautes auraient reçu de telles doses de rayonnement qu'ils en seraient morts. Peut-être pas au moment même, mais en rentrant en tout cas. Donc il faut donc que les vaisseaux, que les habitats, si on fait des séjours de longue durée, soient capables de bloquer ces rayonnements. Et dans le cas des bases au sol, ça implique vraisemblablement d'enterrer l'habitat.
Et est-ce qu'il y a d'autres problèmes ?
Alors, un autre problème pour la santé, c'est le régolithe lunaire. Alors, le régolithe, c'est quoi? C'est une poussière très, très fine, un peu comme de la farine, qui tapisse le sol de la Lune. Et on l'a vu lors des missions Apollo, le régolithe, ça s'incruste partout. Et même si les grains sont minuscules, en fait, ils sont très abrasifs et donc très mauvais pour les poumons. Donc, il faudra se débrouiller pour ne pas faire entrer le régolithe dans les vaisseaux et dans l'habitat.
Ok Pierre, donc concrètement, si on essaye de se projeter, mettons qu'on arrive à trouver une solution contre la poussière lunaire, hein, le régolithe dont tu viens de nous parler, les rayons cosmiques. Alors, à quoi pourraient ressembler ces habitats humains sur la Lune? Comment est-ce qu'on ferait pour y respirer, pour y manger, pour y boire?
Alors, je vais commencer par l'exploration, finalement, parce que c'est quand même le but du jeu. Qui dit exploration, dit déplacement. Alors, évidemment, on ne va pas explorer la Lune à pied, hein, c'est grand. Il faudra des engins capables de parcourir en toute sécurité de longues distances. Alors, peut-être des engins pressurisés où les astronautes pourraient retirer leur casque. Il faudra des bâtiments pour se loger. Et comme on ne va pas apporter de béton ni de briques sur la Lune, qui serait beaucoup trop cher, il va falloir apprendre à utiliser les matériaux présents sur place. Et par exemple, faire de l'impression 3D avec ce fameux régolithe. Il y a aussi l'idée de vitrifier carrément le régolithe pour faire des voies de communication dans la future base. Et puis évidemment, ce que tu disais tout à l'heure, c'est les trois éléments les plus importants pour la survie, c'est l'oxygène pour respirer, l'eau pour boire et la nourriture pour manger. Alors, on peut exploiter l'eau, en fait, qui est présente sur la Lune et on peut s'en servir évidemment directement en la buvant ou en arrosant les plantes qu'on fera pousser. Mais on peut aussi casser la molécule d'eau pour en extraire l'hydrogène, qui servirait de carburant pour les fusées de retour, puisqu'il faudra revenir aussi quand même de temps en temps, et pour faire de l'oxygène, hein, l'eau, la molécule d'eau, c'est H2O. Mais pour faire tout ça, pour casser cette molécule d'eau ou extraire de l'oxygène d'autres ressources, minérales par exemple, bah, il faudra de l'énergie. Donc, évidemment, il y a les panneaux solaires, bien sûr, mais aussi, très probablement, des petites centrales nucléaires adaptées.
Et pour la nourriture, il faudra tout apporter de la Terre ?
Non, ça serait vraiment trop cher. Bien sûr, on en apportera une partie, comme il y a dans la Station Spatiale Internationale, sous forme lyophilisée. Mais il faudra quand même apprendre à faire pousser des plantes sur la Lune, en s'assurant, évidemment, que la gravité qui est différente n'altérera pas la croissance des végétaux. Et bien sûr, évidemment, il faudra recycler un maximum de choses. Alors, je vais quand même dire une chose, c'est sur l'ISS, on sait recycler l'eau des urines des astronautes, par exemple. Donc, c'est un système très efficace, mais ça ne serait évidemment pas assez pour cultiver sur la Lune. Donc, l'un des gros enjeux, c'est d'exploiter l'eau sur place, l'eau qui se trouve sur la Lune.
Oui, parce que on sait qu'il y a de l'eau sur la Lune, au pôle sud, mais ce n'est pas aussi simple que ça de l'exploiter parce qu'elle n'est pas présente sous forme liquide comme sur Terre.
Évidemment, donc l'eau est présente dans le sol sous forme de glace, mais on ne sait pas bien en quelle quantité, on ne sait pas bien à quelle profondeur et on ne sait pas non plus comment on l'exploitera. Donc une des idées que j'ai vu passer, c'est peut-être de faire vadrouiller des petits robots qui feraient évaporer la glace sous eux et qui collecteraient cette vapeur. Si jamais cette eau lunaire est abondante et accessible, ce sera une source de carburant, comme je l'ai expliqué à l'instant.
Pour en extraire l'hydrogène, pour s'en servir de carburant pour les fusées.
Exactement. Et c'est une des raisons pour lesquelles les Américains et les Chinois veulent se rendre dans la région du pôle sud lunaire, où va bientôt démarrer une véritable ruée vers l'eau.
Et du coup, ce pôle sud, c'est l'endroit idéal pour se poser et s'installer, vu la présence d'eau qui s'y trouve ?
Oui, et ce n'est pas la seule raison, parce que, en fait, contrairement à la Terre, où les pôles sont inhospitaliers, sur la Lune, c'est un peu l'inverse. Alors, c'est notamment dû au fait que la Lune tourne lentement sur elle-même, et que sur la Lune, une journée, ça dure 4 de nos semaines. Ce qui fait que dans les régions équatoriales où les missions Apollo se sont opposées, le jour dure 2 semaines et la nuit dure 2 semaines, ce qui provoque des différences extrêmes de température avec une amplitude thermique de presque 300 degrés, ce qui est énorme, ce qui n'est pas génial du tout pour les humains. En revanche, au pôle sud de la Lune, il y a des endroits qu'on appelle des pics de lumière lumière éternelle, des sommets de montagnes ou des sommets de cratères que le soleil éclaire plus de 80 ou 90% du temps. Et c'est dû au fait que sur la Lune, on n'a pas de nuit polaire parce que la Lune n'est quasiment pas inclinée sur son axe de rotation, contrairement à la Terre. Mais ces endroits où il y a de la lumière presque tout le temps sont assez rares et ils vont être forcément très convoités.
D'accord, donc ça veut dire que ces endroits vont être très recherchés par toutes les puissances spatiales qui sont de plus en plus nombreuses. Et ça pose donc la question de la répartition de l'exploration lunaire entre les pays. Comment ça va se passer? Est-ce que toutes ces puissances, qui sont concurrentes entre elles un peu, peuvent collaborer?
Ça va être difficile. Alors, il faut savoir qu'il y a un traité de l'espace qui date de 1967, qui a été signé à l'ONU. Et il stipule que personne ne peut s'approprier les richesses de l'espace, ni les terrains des astres extraterrestres. Alors, c'était facile à signer à l'époque parce que, évidemment, personne n'avait encore posé le pied sur la Lune. Et il faut savoir que ces ressources, ces terrains, tout ça, c'est considéré comme un bien commun de l'humanité, finalement, un peu comme ce que prévoit le traité de l'Antarctique. Donc, a priori, on ne peut pas s'approprier ni le terrain, ni les ressources sur la Lune. Mais en fait, ça fait plusieurs années que les Américains militent pour modifier cet aspect juridique de l'exploration spatiale. Ils ont mis en place en 2020 les accords Artemis, qu'une trentaine de pays, dont la France, ont signé depuis. Et qu'est-ce que ça dit, ces accords Artemis? Ben, entre autres, ça dit clairement qu'on pourra exploiter les ressources et aussi qu'on pourra établir une sorte de zone de sécurité autour de chaque installation lunaire, ce qui revient finalement à contourner le traité de 67, puisque grosso modo, on va s'approprier des ressources et des territoires. Et en fait, ça va être premier arrivé, premier servi.
Donc, en définitive, cette exploration lunaire pourrait se transformer en conflit entre humains.
Alors, ce n'est pas exclu, mais quand même, il faut savoir que le traité de l'espace interdit de militariser l'espace et personne n'a remis en question cet aspect-là des choses jusqu'ici. Mais il est clair que vu la rareté des lieux qui sont propices à l'installation sur la Lune, vu la rareté possible de l'eau, le risque de tension future n'est pas exclu. Et comme je le dis souvent, ben, il n'y a pas de shérif dans l'espace.
Merci Pierre.
Merci Jean-Guillaume.
Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que depuis la rentrée, nous sommes désormais présents sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur votre application préférée et à nous laisser quelques étoiles ou un petit commentaire si vous écoutez quotidiennement L'Heure du Monde. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.